Soldats du 5e, reconnaissez-moi. S'il est parmi vous un seul homme qui veuille tuer son empereur, il peut le faire. Me voilà. Adieu, terre des braves, je te salue. Adieu, France, adieu.
Il est resté immobile depuis ce moment jusqu'à 5h49 minutes du soir, qu'il a rendu son dernier soupir.
C'est dans les temps difficiles que les grands hommes déploient toute l'énergie de leur caractère et deviennent un objet d'admiration pour la postérité.
Il a été le plus grand ennemi de l'Angleterre, et aussi le mien. Mais je lui pardonne tout. À la mort d'un grand homme, nous ne serions éprouvés que recueillement et regret.
Le 5 mai 1821 à 17h49, Napoléon meurt à l'âge de 51 ans sur l'île de Sainte-Hélène. Chateaubriand dira qu'il venait de rendre à Dieu le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l'argile humaine. Napoléon, prisonnier des Anglais, s'est éteint après 6 ans de déportation sur un rocher perdu au milieu de l'océan. 6 longues années, pendant lesquelles il n'aura de cesse de façonner son histoire et de construire sa légende pour la postérité.
L'infortune seule manquait à ma renommée. J'ai porté la couronne impériale de la France, la couronne de fer de l'Italie. Et maintenant, l'Angleterre m'en a donné une autre plus grande encore et plus glorieuse. Celle portée par le sauveur du monde. Une couronne d'épines.
Napoléon, le crépuscule de l'aigle. Une série réalisée par Franck Istas et Pierre de Valais. Dernier épisode, la mort et la légende.
En quel état je suis tombé? J'étais si actif, si alerte. À peine si je puis à présent soulever ma paupière. Mais je ne suis plus Napoléon.
Alors, Napoléon prend conscience de sa faiblesse. Alors, à partir de l'année 1820, il a de plus en plus de mal à se déplacer. Il est obligé de se déplacer à leurs bras, puis il est soutenu par les épaules. Enfin, il a du mal à sortir de plus en plus. En fait, il a manqué de mourir. Déjà, il souffre d'ulcères.
Pierre Branda, historien, auteur de Napoléon à Sainte-Hélène.
Son ulcère a perforé, il aurait pu mourir déjà en 1819. Son estomac est aussi atteint de gastrite, probablement aussi de bactéries. Donc en fait, il est miné, il souffre d'hémorragie interne, il s'anémie petit à petit. Même Lucali, qui était là, son bibliothécaire, dira « il est comme une lampe qui s'éteint ». C'est exactement ça. Puis c'est quelqu'un qui est habitué au voyage, habitué à l'action, etc., est en train effectivement de s'éteindre par cette maladie, mais aussi moralement. Et donc, on assiste à une lente déchéance. Napoléon a encore des moments, si je puis dire, où il se reprend, où il fait même de l'exercice. En janvier 1821, il fait installer une sorte de machine sportive, une sorte de tape-cul pour enfants, où en fait, il fait de l'exercice puisqu'il ne sort plus. Mais quand même, il s'est enfermé dans son jardin, il a fait creuser des allées pour plus qu'on le voit. Comme s'il s'enterrait déjà, il sort plus de son domaine. Alors là, il n'a plus d'ambition d'écrire, il n'écrit plus depuis 2 ans, ni pour la postérité, ni pour ses contemporains. Ce qui fait dire que quand même les choses étaient liées. Parce que s'il avait renoncer à tout, mais qu'il voulait quand même laisser une trace, il aurait continué d'écrire. Or, il n'écrit plus, il ne dicte plus, il ne travaille plus. Donc, il grossit, il est en train de s'abandonner à lui-même. Bon, à peu près vers la fin mars, en avril 1821, il comprend que c'est fini.
Après 6 ans d'exil sur l'île de Sainte-Hélène, Napoléon a compris qu'il ne quitterait jamais ce rocher-prison perdu dans l'océan Atlantique. En 1821, sa santé commence sérieusement à décliner. Il comprend que sa fin est proche. Le général Montholon, un des derniers fidèles de l'empereur à être resté à ses côtés, est témoin de sa déchéance.
La maladie de l'empereur ne cède à aucun remède. Sa marche est constante, quoique lente, heureusement. Toutes les fois que je le puis, je l'arrache de son lit pour lui faire faire le tour du parc en calèche. Il ne peut plus du tout marcher, même dans sa chambre, sans être soutenu, tant sa faiblesse est grande. C'est aujourd'hui un cadavre qu'un souffle de vie anime au physique et au moral. Ce maudit Sainte-Hélène l'aura tué. Cette nuit, vers 2 heures, l'empereur s'est levé sur son séant par un mouvement compulsif et a voulu sortir de son lit. J'ai eu beaucoup de peine à le faire recoucher. Il brûlait, me disait-il. Sa peau était presque en moiteur. Il a été très altéré toute la nuit.
Alors les Anglais ne croient pas vraiment à la maladie de Napoléon. Hudson-Lowe, en tout cas, n'y croit pas. Et à Londres, ses supérieurs non plus.
Charles-Éloi Vial, historien, auteur de « L'histoire des 100 jours ».
Il pense que c'est une maladie feinte, c'est-à-dire une maladie manigancée par Napoléon pour justifier un retour en Europe. Une sorte de rapatriement médical, si vous voulez. Donc, on ne croit pas à la maladie de l'empereur, d'autant plus que tout le monde sait, c'était très connu dans toutes les histoires de Napoléon que l'on pouvait lire depuis l'Empire, Napoléon a une santé de fer, Napoléon ne dort pas, Napoléon mange très peu, Napoléon est toujours en pleine forme. Donc, on a du mal à croire qu'un tel homme puisse décliner physiquement. Et c'est pourtant bien ce qui se passe. Tous les Français peuvent s'en rendre compte. Les Anglais s'en rendent peut-être moins compte, puisque comme Napoléon prend une sorte de plaisir un peu masochiste à se cloîtrer dans ses appartements et à demeurer invisible, on a moins souvent l'occasion de le voir. De toute façon, dès que quelqu'un voit Napoléon et le décrit comme il a l'air malade, Hudson-Lowe pense que c'est un traître. Donc ça devient une sorte d'engrenage un petit peu vicieux, complètement absurde. Et au final, alors que Napoléon est mourant à Longwood, Hudson-Lowe est encore persuadé ou qu'il fait semblant, ou alors qu'il s'est rendu malade exprès.
Napoléon se plaint de plus en plus fréquemment de terribles douleurs à l'estomac. La douleur, la fièvre deviennent difficiles à supporter. Souvent, Montholon ou le grand maréchal Bertrand sont appelés la nuit pour tenter de le soulager.
Le grand maréchal voit l'empereur le matin. Il le fait appeler à 4 heures. Il croit qu'il mourra dans 8 jours si la fièvre continue. Bertrand passe 5 heures le matin chez l'empereur. Sa position est intenable. Pire que cette nuit. À 6 heures du matin, il le fait appeler. Le docteur vient de lui donner de petits lavements.
La médecine de l'époque n'est pas celle d'aujourd'hui, évidemment. On n'a pas d'endoscopie, on n'a pas de radiographie, on ne peut pas...
Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon.
On ausculte vraiment en touchant les malades du bout des doigts. On n'est pas encore dans une médecine très, très, très moderne. Et donc, Napoléon est soigné avec les remèdes de l'époque. À la fois, il est soigné par des médecins qui sont assez capables. C'est le cas du docteur O'Meara. Ça sera un petit peu le cas du docteur Stokoe. Mais il reste aussi pendant pratiquement un an sans médecin. À partir de l'expulsion du docteur O'Meara jusqu'à l'arrivée de son dernier médecin, le docteur Antomarchi, il est pratiquement pas soigné. Et c'est probablement à ce moment-là qu'il en aurait eu le plus besoin, puisque très probablement la rupture de la paroi de son estomac sous l'effet de l'ulcère a lieu à cette époque-là. Donc il aurait eu vraiment besoin d'être soigné. Et puis, au moment où on va le soigner avec les méthodes de l'époque, que aujourd'hui, bien sûr, sont rigoureusement interdites, et notamment cette utilisation permanente du mercure pour soigner. Donc dans le calomel, il y a du mercure. Il viendrait à l'idée de personne aujourd'hui de boire du mercure. Ben, à l'époque, c'est ce qu'on faisait avec les malades. Et donc tout ça ne contribue pas, évidemment, ni à le maintenir en bonne santé, et surtout pas à le guérir.
Par moments, il semble perdre la mémoire. La douleur est telle qu'il n'arrive plus à rassembler ses esprits. Bertrand témoigne.
Il a demandé comment s'appelait son fils. 2 fois, la voix a repris plus de netteté. Depuis 8 heures, il a paru avoir toute sa raison. Mais ne parlait plus guère, ne pouvait plus guère remuer la main, ouvrant souvent des yeux ternes, mourants, pénibles à voir. Je n'osais le fixer. Je craignais qu'il ne vît l'inquiétude dans mes regards.
Mais c'est une lente déchéance physique qui, en plus, accentuée par le fait que ses médecins ne comprennent absolument pas son mal. Bon, d'abord, l'ulcère, on ne sait pas le soigner, mais je veux dire, lui, ses médecins pensent qu'il est atteint du foie. Donc, il se trompe d'organe, déjà. Et donc, il le soigne assez mal, par des saignées, alors qu'il est atteint d'hémorragie, par des traitements. On lui brûle le ventre avec des cautères. Enfin, bon, on le fait souffrir. On ne peut pas dire qu'ils ont entraîné sa mort. Ils ne sont pas à l'origine de sa mort. Mais enfin, non seulement ils le font souffrir, mais en plus, ils vont accélérer sa mort. Donc, sur tous les plans, en fait, Napoléon n'est pas aidé. Son entourage le veille de plus en plus. À ce moment-là, on a quand même une belle communion de tous ses compagnons, de Montholon, Toulon, à Bertrand, à ses domestiques. Mais voilà, bon, Napoléon, petit à petit, s'est entouré, heureusement pour lui, mais c'est une mort quand même assez difficile, une agonie longue, pénible. Napoléon ne peut plus rien avaler, son corps est froid, il est atteint de crises assez aiguës. Tous les soirs, on pense qu'il va mourir. Hein. Il a du mal à respirer, il s'étouffe. Enfin bon, c'est vraiment une agonie très difficile, hein, un calvaire. Hein.
Ce n'est plus qu'un cadavre. Son gilet est couvert de crachats rougeâtres qui n'ont pas la force d'aller plus loin.
La mort de Napoléon, on ne la souhaite à personne, hein, parce que c'est une mort d'abord lente, très douloureuse à la fin de sa vie, avec des pertes de connaissances, des pertes de, comment dire, d'esprit assez fréquentes, et puis des manifestations physiques de la douleur, des coliques, des diarrhées, enfin, etc. Je ne veux pas insister sur les détails, mais c'est véritablement une mort très très douloureuse que Napoléon affronte avec un courage assez exemplaire. Il se plaint peu. Il se plaint de la douleur, évidemment, mais enfin, il n'embête pas trop son entourage. Il subit tout ça avec, avec courage. Pourquoi ? Parce que, d'abord, c'est un homme courageux, bon, première chose. Et puis ensuite, il veut une mort de souverain. C'est-à-dire, les souverains, autrefois, mouraient en public, ils mouraient courageusement, ils avaient toujours un dernier mot pour leur entourage, et ils mouraient entourés par la religion, presque asphyxiés par l'encens. Napoléon, il veut ça, parce qu'il est l'empereur Napoléon. Donc il supporte tout ça très courageusement. Et puis, les derniers jours sont des jours dans le brouillard, ce sont des jours très obscurs. Enfin, il n'y a pas la grande phrase de Napoléon avant sa mort.
L'empereur m'a parlé aujourd'hui de son testament. J'ai cherché à lui donner l'espoir que ce serait une précaution inutile. Mais il a persisté et m'a dit...
Je l'écrirai demain, si le mieux continue.
Il va entreprendre la rédaction de son testament pénible, hein, parce que il peut rédiger un testament holographe, un important message qu'il adresse là, pour le coup, à la postérité, il le sait, hein, il sait que cette fois-ci c'est fini.
Le testament de Napoléon est déjà un document émouvant, puisque Napoléon le dicte alors qu'il est à bout de force, et il sait qu'il faut que son écriture soit lisible, donc il arrive à discipliner sa main, à former des lettres pour que tout le monde puisse lire ses dernières volontés. Donc déjà, c'est un document qui a une charge émotionnelle très grande. C'est un document qui a un enjeu financier qui peut potentiellement être important, puisque il va léguer donc sur les fonds propres qu'il lui reste, donc cet argent qu'il distribue à ses fidèles. Donc pour eux, c'est un testament extrêmement important. Il y a aussi une forme de legs de conscience, c'est-à-dire que Napoléon considère que l'argent qu'il avait tant qu'il était encore souverain lui appartient encore, et il va faire des dons complètement absurdes à des villes, à des groupes de personnes, par exemple aux soldats qui ont pris part à ces campagnes, aux villes qui ont souffert pendant la campagne de France. Il va donner des sommes absurdes de plusieurs millions, dizaines de millions de francs. Donc c'est une forme de legs pour la postérité. Il veut montrer qu'il n'a oublié personne, il veut montrer qu'il est généreux, il veut montrer, et c'est là aussi que sa mémoire absolument phénoménale lui sert pour la dernière fois, il cherche à qui il pourrait encore être redevable. Ça nourrit aussi sa légende, la légende d'un empereur qui jusqu'au bout a été généreux, qui jusqu'au bout aura voulu le bien de la France. Cette affaire du testament de Napoléon va durer jusqu'au Second Empire, où Napoléon III s'efforcera de solder quelques-unes des dettes. Donc il y a quelques légataires du testament qui finiront enfin par toucher l'argent qu'ils devaient toucher en 1821. Ils le toucheront seulement à peu près en 1855, qui va faire des legs symboliques à des villes qui vont recevoir ou des petites sommes d'argent, ou pouvoir ériger des statues en souvenir de l'empereur. Donc il sait, même si cet argent n'a pas vraiment été donné, il sait que c'est quelque chose qui va marquer, qui va ensuite marquer tout le territoire, et que son souvenir restera présent par son testament. Peut-être là aussi qu'il a été marqué, puisqu'il savait ce qui se passait en Europe, par l'impact qu'avait pu avoir le testament de Louis XVI et le testament de Marie-Antoinette, qui ont été publiés souvent à partir de 1816. On a des très belles gravures où les deux testaments sont accolés avec des fleurs de lys, des choses qu'on retrouve dans toutes les chaumières. Il devait se dire qu'il y aurait peut-être le même engouement vis-à-vis de son propre testament.
Je recommande à mon fils de ne jamais oublier qu'il est né prince français. Il ne doit jamais combattre ni nuire en aucune autre manière à la France. Il doit adopter ma devise. Tout pour le peuple français. Je lègue à mon fils mes armes, mon épée, celle que je portais à Austerlitz, mon nécessaire d'or, celui qui m'a servi le matin d'Ulm, d'Austerlitz, d'Iéna, d'Elo, de Friedland, de la Moscova et de Montmirail. Je charge le comte Bertrand de soigner et conserver ces objets et de les remettre à mon fils lorsqu'il aura 16 ans.
Dans les derniers moments,
la
course entre les généraux est gagnée par le général de Montholon. Le général Bertrand a failli quitter Sainte-Hélène, il s'est beaucoup disputé avec Napoléon. Puis le général Bertrand n'est pas sentimental, ça n'est pas, il ne veut pas être la nounou de Napoléon, il est son grand maréchal du palais. Monsieur de Montholon, c'est autre chose, c'est la vieille aristocratie, c'est celle qui a toujours entouré les souverains, il sait faire. Il sait faire, alors ce n'est pas d'ailleurs forcément péjoratif, ce n'est pas toujours avec de mauvaises intentions, il sait faire. Et donc, il monte dans l'estime de Napoléon, parce qu'il s'occupe beaucoup de lui, parce qu'il s'occupe bien de lui, et donc il va supplanter le général Bertrand. Il le supplante d'abord. C'est lui qui reçoit la dictée du testament. En plus, il reçoit le plus gros legs. Et puis, en même temps, il est là toujours. Il est là tout le temps, alors que le général Bertrand, il fait son service, quoi, en quelque sorte. Et puis, dans les personnages, admirables qui entourent Napoléon au moment de son agonie, évidemment, Marchand et Napoléon le récompense du plus beau legs qui soit donné à la postérité dans son testament en disant « il m'a rendu les services d'un ami ». Napoléon n'a jamais traité d'ami, si je puis dire, qui que ce soit. Que son valet de chambre reçoive ce titre-là, ça vaut bien le fameux titre de comte qu'on lui a contesté, et pour la postérité, ça rend ce personnage admirable, alors même qu'on serait bien incapable de donner le nom du valet de chambre de Louis XIV ou du général de Gaulle ou de Georges Clemenceau. Là, on a dans l'histoire quelque chose d'assez unique, c'est que les domestiques de Napoléon sont devenus des stars. Et ça, c'est aussi l'effet Sainte-Hélène.
5 mai 1821, le jour de la mort de l'empereur. À 6h30, il a placé sa tête droite, fixant le pied du lit, les yeux ouverts, fixes et voilés. À 8h, quelques gémissements, ou plutôt quelques sons sourds, qui paraissaient se former dans le bas-ventre et siffler en traversant le gosier. Une larme est sortie de l'œil gauche, au coin, du côté de l'oreille. Respiration douce, parfaite immobilité de tout le corps. Les yeux fixes, voilés, se sont fermés jusqu'aux trois quarts.
Le jour de sa mort, sortant quelques instants de son coma, Napoléon redit :
France, tête de l'armée. Joséphine, mon fils.
Alors, à la toute fin de sa vie, elle a vraiment à la toute extrémité.
Charles-Éloi Vial.
Tout Longwood est réuni autour du lit de l'empereur, mais vraiment, en priorité, on va avoir Montholon et Bertrand, qui sont vraiment les deux généraux qui le veillent. Il y a également la comtesse Bertrand qui va être présente avec ses enfants, Marchand, et Ali, et le médecin Thomas Marquis. Donc là, c'est vraiment le cercle rapproché qui guette le moindre tressaillement de l'empereur, le moindre signe de vie, jusqu'au moment où on se rend compte que voilà, il vient de mourir, il a poussé son dernier souffle à 5h49 de l'après-midi.
Il est resté immobile depuis ce moment jusqu'à 5h49 minutes du soir, qu'il a rendu son dernier soupir. Toujours sur le dos, la main droite hors du lit, l'œil fixe, paraissant absorbé dans une profonde méditation, sans l'apparence d'aucune souffrance. Les lèvres légèrement contractées, l'ensemble de sa figure exprimait de douces impressions.
à 5h49 du soir, Marchand arrête les pendules de Longwood.
Pierre Branda.
Nous ne marquons donc jamais 6h. Et on a comme ça cette fin racontée magnifiquement par Chateaubriand. Et un moment de stupéfaction, pas de surprise, mais voilà, d'abattement parmi la suite de Napoléon. Puis beaucoup commencent à pleurer. Et puis on commence à lui rendre les premiers hommages. C'est d'abord le grand maréchal Bertrand qui lui prend la main, lui baise la main, et ainsi de suite. Dans l'ordre protocolaire, on suit. Les Anglais viennent constater le décès, etc. Et donc là, voilà, Hudson Lowe va venir le lendemain matin en compagnie d'officiel constater son décès également.
Hudson Lowe, le gouverneur de l'île, le geôlier, l'ennemi de Napoléon pendant ses années d'exil sur Sainte-Hélène, enterre la hache de guerre et prononce ces mots devant la dépouille de son célèbre prisonnier.
« Eh bien, messieurs, il a été le plus grand ennemi de l'Angleterre, et aussi le mien. Mais je lui pardonne tout. À la mort d'un grand homme, nous ne serions éprouvés que recueillement et regret. »
Napoléon sera autopsié, il l'avait demandé. Hudson Lowe voulait aussi cette autopsie parce qu'il voulait qu'on connaisse les causes de sa mort pour pas qu'on l'accuse d'avoir tué Napoléon. Et quand tout le monde s'accorde...